Bien, je vous remercie tous d'être venus aussi nombreux, bien que le nombre commence à baisser, c'est toujours comme ça, la troisième semaine. Je vous avais laissé dans l'été 1997 avec une visite du secrétaire d'État Madeleine Albright au Proche-Orient, qui n'avait pas donné grand-chose. Et au lendemain de la visite, le roi Hussein envoie un nouveau courrier à Netanyahou. Cette fois, il se montre optimiste, puisque selon ses informations, le Hamas serait prêt à négocier une trêve, Houdna en arabe, de 30 ans. Cette lettre est transmise au responsable du Mossad à Amman pour être délivrée le plus tôt possible au premier ministre israélien. Les relations entre le monarque et les Israéliens paraissent excellentes. D'ailleurs, il vient de recevoir en visite privée Dani Yatom, le directeur du Mossad. Or, le 25 septembre, à Amman, Khaled Meshal, l'un des principaux dirigeants de l'extérieur du Hamas, est agressé dans la rue par deux personnes. Apparemment, aucun mal ne lui est fait, mais son garde du corps se jette à la poursuite des deux agresseurs. Grâce à l'aide de la population qui l'a rameuté, les deux personnes sont arrêtées et livrées à la police. Ils sont porteurs de passeports canadiens. Soupçonneuse, la police jordanienne encercle l'ambassade d'Israël à Amman, où quatre autres Canadiens, entre guillemets, se sont réfugiés. Denis Yatom se précipite à Amman et reconnaît devant le roi que ses hommes ont empoisonné Meshal et que ce dernier va bientôt mourir. Le roi Hussein voit immédiatement que les funérailles pourraient être l'objet d'un gigantesque mouvement populaire qui risquerait d'emporter la monarchie, jugée par la population comme complice de l'assassinat. Il va jusqu'à imaginer que c'est là le véritable but de l'opération, créer une patrie palestinienne de substitution, thème traditionnel de la droite israélienne. La survie du trône hachémite passe donc par celle du dirigeant extérieur du Hamas. Les Israéliens sont sommés de livrer immédiatement un antidote, sinon le traité de paix israélo-jordanien sera dénoncé. Et le roi Hussein refuse de prendre au téléphone le premier ministre israélien. En revanche, les plus hauts responsables américains sont informés directement de l'ampleur de la crise en cours. Netanyahou tergiverse devant les pressions jordaniennes et américaines. On envisage à Amman de prendre d'assaut l'ambassade d'Israël, l'action étant confiée au fils aîné du roi, le prince Abdallah, l'actuel roi Abdallah II. Clinton comprend l'urgence de la situation et que toute la paix au Moyen-Orient dépend de l'état de santé de Meshal. Heureusement, les médecins jordaniens réussissent à stabiliser l'état du patient en le mettant dans un coma artificiel. Pardon, j'ai perdu ma ligne, voilà. Netanyahou affirme que le poison étant un secret d'État, il ne peut en fournir ni la composition ni l'antidote. mais il comprend vite qu'il doit céder. Il rappelle d'urgence Éphraïm à Lévi, l'ami personnel du roi et actuellement représentant à Bruxelles d'Israël auprès de l'Union européenne. L'enjeu est maintenant non seulement de sauver la vie de Michal, mais encore d'obtenir la libération des deux agents israéliens prisonniers à Amman. Le Hamas et les frères musulmans n'accepteraient pas qu'ils ne soient pas jugés et lourdement condamnés. Après 3 jours de crise, il semble que la solution soit apparue simultanément à l'esprit du roi Hussein et d'Alevi, la libération en contrepartie du cher Yassine, le chef du Hamas, et de quelques autres prisonniers de haut rang du Hamas. La formule de l'antidote est ainsi fournie. Le poison se révèle être un dérivé d'un anesthésique, le fentanyl. Outre sa forme mortelle, il a l'avantage de ne pas laisser de traces. Il semblerait que le produit ait été développé originellement par une firme pharmaceutique américaine qui l'a abandonné. Il aurait été repris comme arme éventuelle en Union soviétique et introduit en Israël par des juifs de Russie. C'est ce fentanyl qu'auraient utilisé les Russes en 2002 lors de la prise d'otages dans un théâtre à Moscou par des Tchétchènes, et le bilan avait été la mort de 129 otages, si vous voulez bien vous en rappeler. Le 29 septembre, grâce à l'antidote, l'état de Michal s'améliore rapidement. L'échange de prisonniers peut alors avoir lieu. Le cher Yassine est transféré aux autorités jordaniennes, puis pourra ensuite revenir s'installer dans la bande de Gaza. Le roi Hussein paraît le grand gagnant de la crise. Il a réussi une nouvelle fois un grand numéro d'acrobatie politique, sauvant son royaume, renforçant ses liens avec les États-Unis, maintenant malgré tout le traité avec Israël et se posant comme protecteur des islamistes palestiniens. L'autre gagnant est le Hamas, qui a vu la libération de son fondateur et renforcé son prestige dans la population palestinienne. Netanyahou et Arafat sont les deux perdants. Le premier a montré une nouvelle fois une dangereuse incompétence, mettant en danger un intérêt vital israélien dans le but d'exercer un nouvel assassinat ciblé, dont le seul résultat aurait été de remonter le moral de la population israélienne. Mais en Israël, on ne remet pas en cause la pratique des assassinats, on juge seulement qu'on en a frappé dans le mauvais pays à un mauvais moment. Le premier ministre israélien tente de faire porter la responsabilité de l'échec sur le chef du Mossad et Atom, alors que c'est lui qui a pris la décision, autorisée, il est vrai, par une directive plus générale adoptée par le gouvernement israélien. N'hésitant pas à se contredire, Netanyahou explique maintenant que c'est Michal qui a organisé de Jordanie les 2 derniers attentats, alors que durant toute la période précédente, il avait mis en cause l'autorité palestinienne. Finalement, l'opinion publique israélienne, profondément attachée à la pratique des attentats ciblés, accepte l'idée qu'il ne s'agit que d'un revers, un coup de malchance. Encore une fois, l'administration Clinton refuse une condamnation formelle de l'action israélienne. On se contente de rappeler que l'on rejette la pratique des assassinats politiques tout en manifestant sa compréhension des nécessités de la lutte antiterroriste israélienne. Dans la presse arabe, on se demande ironiquement comment l'hôte de la Maison-Blanche aurait réagi si un État arabe s'était avisé d'essayer d'assassiner une personnalité juive, quelle qu'elle soit. Et on peut ajouter en post-scriptum que l'affaire Michal permet de comprendre les réactions par rapport à la mort d'Arafat. Puisque, première question, est-ce qu'Israël fait assassiner des responsables arabes et palestiniens? La réponse est oui. Second point, est-ce qu'ils utilisent du poison? La réponse est oui. Troisième point, est-ce qu'ils ont assassiné Arafat? Personne ne le saura jamais. Donc là, la question reste ouverte. Mais je veux dire que les suspicions dans l'affaire de la disparition d'Arafat s'appuient sur toute une série d'affaires d'empoisonnement montées par les services israéliens depuis les années 1970. Et on notera en particulier la disparition d'un chef du FDLP. Et à l'époque, au milieu des années 70, et à l'époque, on avait déjà parlé d'assassinat par des produits radioactifs, sans preuve, hein. Bien évidemment. Arafat, qui venait justement de lancer une première opération de police contre l'infrastructure civile du Hamas, se trouve ainsi trahi par Netanyahou et le roi Hussein. Il doit lui-même se précipiter à Amman pour rencontrer le cher Yassine en présence du monarque hachémite. Lui et son entourage ne sont pas loin de soupçonner une manœuvre complexe destinée en dernière analyse à l'affaiblir encore plus, une conspiration jordano-islamiste avec même une participation israélienne, puisque de toute façon, dans la région, il n'y a que des complots. Et donc, en général, quel que soit le camp dans lequel vous vous trouvez, vous avez toujours contre vous un complot dans lequel, évidemment, Israël participe. Donc ici, la Jordanie accuse Israël, les Palestiniens accusent Israël, etc. Le problème, c'est que 9 fois sur 10, il n'y a pas de complot, mais qu'une fois sur 10, il y a quand même un complot, ce qui rend compliqué l'analyse. Bien, nous allons maintenant entrer dans un nouveau chapitre qui va être centré sur le sommet de White Plantation. On va retrouver le terme bientôt. Et en introduction, je vous fais une longue citation d'un des très grands critiques d'Arafat du côté palestinien, qui est Edward Said, qui écrit donc à propos de l'accord de White Plantation les textes suivants, qui a été publié dans le journal français Le Monde, mais qui avait été évidemment publié d'abord dans la presse anglophone. Au reste, le mémorandum issu des discussions est, pour l'essentiel, dévolu aux dispositions sécuritaires qui subordonnent en fait l'autorité palestinienne à la sécurité d'Israël unilatéralement. Les vies et les moyens d'existence des Palestiniens ne méritent même pas une phrase dans la prose éminemment roublarde de l'accord. La CIA jouera par ailleurs un rôle actif dans le traitement des problèmes de sécurité. Pendant ce temps, Israël peut faire ce qu'il veut, construire de nouvelles colonies, s'emparer de plus de terres, s'étendre à Jérusalem et puiser toute l'eau de la rive occidentale qu'il désire. L'avenir des droits de l'homme chez les Palestiniens s'annonce en vérité sous de sombres auspices, puisque soumis au contrôle dictatorial d'un Arafat déjà despotique, soutenu par la CIA et Israël, le vrai problème posé par les dispositions de transfert de territoire n'est pas seulement qu'il donne à Israël le droit unilatéral de décider lequel sera rétrocédé, il lui offre aussi un nombre généreux de phases pour mener ce transfert à son terme, sans aucun dispositif contraignant en cas de retard ou de manquement à ses obligations. Quand on connaît le comportement de l'armée israélienne depuis la signature des accords d'Oslo et comment elle a totalement ignoré les dispositions sur la liberté de circulation, il faudrait être naïf pour croire que ces redéploiements auront lieu aux dates prévues, surtout s'ils dépendent du tristement célèbre Ariel Sharon. Pour ce qui est des modifications de la charte nationale palestinienne exigée par Israël, elles apposeront une convocation précipitée du groupe auquel M. Clinton a choisi de s'adresser pour des raisons qui ne lui font pas honneur. L'aéroport palestinien et le port de Gaza ont volontairement été laissés dans le flou, mais les Israéliens ont insisté avec une jolie mesquinerie pour fouiller jusqu'à l'avion d'Arafat avant chaque décollage et après chaque atterrissage. Une fois de plus, la sécurité de l'aéroport et du port hypothétique seront aux mains des Israéliens. Il s'agit donc, tout bien considéré, d'un document désespérément borné et pinailleur qui n'a guère de chance d'être mis en pratique. Il suffira d'une grenade palestinienne pour retarder de plusieurs mois le redéploiement palestinien, israélien, pardon, et qui n'a aucune possibilité de changer les relations des deux camps. Les Israéliens continueront d'être les maîtres et les Palestiniens, qu'on me pardonne la formule, les nègres abjects. Et maintenant, un certain nombre de choses s'imposent d'elles-mêmes. Pour commencer, l'administration palestinienne devrait être vertement censurée par le plus grand nombre de gens possible pour s'être aussi honteusement aplatie lors des négociations. Arafat et sa bande appartiennent désormais corps et bien aux services secrets israéliens et américains associés, empêchant de ce fait que la Palestine connaisse jamais un semblant de vie nationale démocratique. Donc ce texte a été publié dans Le Monde le 4 novembre 1988, enfin dans Le Monde daté du 4 novembre 1988, l'original datant du mois d'octobre et qui pose toutes les questions à la fois de la nature des accords israélo-palestinien et le fait qu'en quelque sorte il est contradictoire de demander à Arafat, qui n'en est pas prêt du tout de le faire d'ailleurs, d'exercer un régime démocratique dans l'autorité palestinienne et en même temps de respecter les obligations des accords avec Israël. Et on voit aussi la vivacité des critiques palestiniennes par rapport à l'autorité. Rappelons, je l'ai dit la dernière fois, que les textes d'Edouard Saïd étaient censurés à l'intérieur de la Palestine sous contrôle de l'autorité. Alors, maintenant, nous allons reprendre les événements après l'affaire Méchal. Depuis l'accord sur Hébron, la stratégie d'Arafat est de faire du gel de la colonisation la condition sine qua non de la reprise des négociations. Il a autorisé son porte-parole, Marwan Kanafani, à ouvrir un canal de communication avec un proche de Netanyahou, mais c'est un dialogue de sourds. L'Israélien rappelle que depuis Madrid, en dépit de leurs protestations répétées, la partie palestinienne a négocié tandis que la colonisation progressait. Pourquoi y aurait-il un changement maintenant ? Voyant la vanité de cette entreprise, le président de l'autorité palestinienne a mis fin à cette voie parallèle. Ça fait partie de ces innombrables canaux parallèles qui accompagne les négociations officielles, ce qu'on appelle en anglais « trick two », la deuxième piste, compte tenu que toutes ces négociations ont lieu en anglais, qui est la langue commune entre Israéliens et Palestiniens. Arafat compte beaucoup sur les pressions arabes et internationales pour arriver à cet objectif. Le Qatar, pour essayer de sauver la rencontre économique de Doha, abaisse le niveau de représentation de la conférence. Ce ne sera plus un sommet où sont invités les chefs d'État, mais une conférence réunissant des ministres. Les invitations sont envoyées dans ce sens. En même temps, Arafat est soumis à une pression permanente des Américains. Et surtout, ne doit pas négliger le fait que les trois redéploiements israéliens prévus mais non effectués sanctuariseraient une partie de la Cisjordanie de la colonisation. Lors de l'accord intérimaire, les Palestiniens avaient compris qu'à l'issue du troisième redéploiement, ils auraient 90% de la Cisjordanie. Les travaillistes avaient probablement à l'esprit la moitié de la Cisjordanie, tandis que le gouvernement Netanyahou n'est prêt au mieux qu'à quelques pourcents. Les Américains n'ont pas de chiffres à proposer et s'en tiennent à leur refrain perpétuel de l'existence d'une crise de confiance. Si l'on arrive à la surmonter, alors tout se déroulerait très bien. Ils obtiennent le principe d'une reprise des discussions aux États-Unis en présence de Dennis Ross entre Abu Mazen et David Levy. Avec mauvaise foi, Netanyahou avait bien accepté l'idée d'une pause, d'un arrêt de jeu, time out, mais seulement pour la durée des fêtes juives au début de l'automne. Plus sérieusement, la pause, selon lui, n'arrête pas la croissance dite naturelle des implantations. Le 6 octobre, le cher Yassine rentre à Gaza, accueilli par une manifestation massive d'une dizaine de milliers de partisans. Il plaide pour l'unité nationale et ménage publiquement Arafat. Mais la lutte pour la libération de la Palestine sera poursuivie. L'opposition au processus de paix est bien sortie renforcée de la crise. Néanmoins, le retour à Gaza du fondateur du mouvement redonne plus de cohérence à l'action de la résistance islamique, divisée entre ailes civiles et militaires, entre intérieur et extérieur. La remise en ordre va se traduire par une suspension de longue durée des attentats que l'on ne peut pas vraiment attribuer à la répression menée par l'autorité palestinienne. Il faut plutôt y voir une mise à l'épreuve de la politique d'Arafat dont on attend l'échec inévitable. À ce moment-là, les temps seront mûrs à une éventuelle prise de pouvoir. Ça, c'est la stratégie depuis le départ d'Oslo du Hamas. Ils considèrent de toute façon qu'Oslo est un piège et qu'Arafat n'obtiendra pas son État palestinien dans les lignes du 4 juin 1967. Donc, à la limite, maintenant, comme Netanyahou est au pouvoir, on n'a pas besoin de mener des opérations contre les Israéliens. Il suffira de les laisser faire pour mettre en échec le processus de paix. Mais en même temps, pour la première fois, ostensiblement, le cher Yassine, tout en rejetant une perspective de réconciliation avec Israël, propose une trêve de longue durée contre un retour des Israéliens aux lignes du 4 juin 1967. Et par là, il se rapproche de la ligne politique de l'autorité palestinienne. Dans la matinée du 8 octobre, Arafat et Netanyahou se rencontrent durant 2 heures à Eretz. On discute de la reprise des discussions sans aborder les sujets qui fâchent et on trouve ça tout à fait encourageant. Le même jour, 4 soldats israéliens sont tués et plusieurs blessés au Liban Sud, à proximité de la frontière israélienne, dans une opération de Hezbollah. Il s'ensuit les habituels échanges de tirs d'artillerie. À la fin octobre, la diplomatie américaine se limite elle aussi aux sujets qui fâchent le moins. L'aéroport et le port de Gaza, la communication entre Gaza et la Cisjordanie. Israël voudrait limiter l'ouverture des accès à la bande de Gaza aux pays qui ont des relations diplomatiques avec l'État hébreu, ce qui interdit la plus grande partie du monde arabe. En outre, les exigences sécuritaires s'exercent toujours sur la composition de la population palestinienne. Les communiqués de presse sont encourageants, mais aucun progrès tangible n'est enregistré. C'est que le gouvernement israélien ne réussit pas à déterminer une ligne claire en ce qui concerne les négociations à venir. Au début de novembre, David Levy se rend à Washington pour une rencontre tripartite avec Abu Mazen et Madeleine Albright. De son propre aveu, il n'a pas de mandat précis. Il se ravise ensuite pour affirmer le contraire, mais personne n'est dupe. Il s'agit bien d'une négociation pour maintenir le principe de la négociation et sauver la conférence de Doha. Comme la partie israélienne refuse tout ralentissement réel de la colonisation et d'appliquer les 3 désengagements prévus dans les accords précédents, les entretiens de Washington ne donnent rien sauf quelques déclarations creuses. Madeleine Albright décide alors de rencontrer séparément Arafat et Netanyahou en Europe. Ils veulent passer directement aux négociations finales sans respecter leurs engagements antérieurs. Publiquement, le président de l'autorité palestinienne menace de proclamer unilatéralement l'État de Palestine en mai 1999 à l'issue de la période d'intérim. Le premier ministre israélien réplique que cela conduirait à la dénonciation par Israël des accords d'Oslo. Alors, ce contexte de l'automne, en particulier de la mi-novembre 1997, et dominé par les soubresauts de la crise irakienne. La commission de l'ONU sur le désarmement, l'UNSCOM, chargée de vérifier que l'Irak ne dispose plus d'armes de destruction massive, est accusée par le régime de Saddam Hussein d'être devenu un instrument de la politique américaine. L'impasse est totale du fait de l'absence de crédibilité des assurances de la dictature irakienne qui affirme qu'elle a bien procédé à ce désarmement, ce qui se révélera vrai après 2003, et du fait que la politique américaine a bien pour but de renverser le régime de Saddam Hussein. Dès lors, indépendamment de l'état réel de l'armement irakien, il n'est pas question de lever les sanctions définies comme un embargo et qui sont en réalité un blocus destructeur de la société irakienne. Dans le raisonnement de Washington, un Irak qui récupérerait la totalité de ses ressources et de sa souveraineté aurait les moyens de se doter rapidement d'un nouvel arsenal destructeur. Autrement dit, les sanctions ont aussi un but préventif. Même si l'Irak n'a pas d'armes de destruction massive, il faut l'empêcher de s'en procurer dans l'avenir. De surcroît, pour pouvoir effectuer son travail, l'UNSCOM a recours aux renseignements que lui procurent la CIA et Israël, alors qu'elle se méfie des services que pourraient fournir la France et la Russie, autres membres permanents du Conseil de sécurité, que l'on juge penchés du côté de l'Irak et de la levée des sanctions. Dominé par les pays anglo-saxons, c'est-à-dire États-Unis, Grande-Bretagne et Australie, l'UNSCOM se comporte de façon indépendante du secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, et en fait n'obéit qu'à deux membres du Conseil de sécurité et pas à l'ensemble du Conseil de sécurité. Les charges irakiennes ne sont donc pas sans fondement. Mais l'exigence de Bagdad du renvoi de la composante américaine de la mission n'est pas acceptable, ni pour les États-Unis, ni pour l'organisation internationale qui rappelle hors d'Irak les membres de l'UNSCOM. On s'attend donc à de nouvelles frappes américaines pour forcer Bagdad à se soumettre. Pour justifier son action, Washington se fonde sur diverses résolutions du Conseil de sécurité, ce qui prête à l'accusation de deux poids deux mesures du fait de la non-application des résolutions concernant le dossier palestinien. Alors certes, il faut rappeler que les résolutions du Conseil de sécurité concernant le dossier palestinien ne sont pas dotées d'un pouvoir de sanction, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas faites au nom du chapitre 7 de la charte de l'ONU, mais néanmoins, elles disent le droit. Or, pour les États-Unis, elles ont été abrogées de fait par les accords d'Oslo qui rend tout négociable. L'opinion publique arabe est très sensible aux souffrances terribles de la population irakienne et fait porter la responsabilité quasi exclusive sur la politique américaine. Même si Saddam Hussein a beaucoup perdu de son ancienne popularité, il apparaît toujours comme celui qui résiste à l'impérialisme américain allié d'Israël. Dans l'État hébreu, on craint une reprise des hostilités avec de nouveaux tirs de Scud qui pourraient être chargés d'armes chimiques. On procède de nouveau à la distribution de masques à gaz, ressuscitant ainsi de terribles craintes. Cela correspond parfaitement à la ligne de Netanyahou, qui joue en permanence des sentiments de peur et du recours à la force. Le 14 novembre, Albright rencontre Netanyahou à Londres. À l'issue de cette réunion, elle ne cache pas son irritation devant l'immobilisme de la politique israélienne. Pour le bien du processus de paix et pour les intérêts généraux de la politique américaine, il est temps d'avancer. L'impasse dans ce dossier se répercute sur celui de l'Irak. La réunion le lendemain à Berne avec Arafat est qualifiée d'utile, useful. Pourtant, elle n'apporte rien de nouveau. Le président de l'autorité palestinienne conditionne la tenue des discussions sur le règlement final à la réalisation préalable de tous les engagements prévus pour la période intérimaire. La conférence de presse porte plus sur l'Irak que sur la Palestine. Arafat paraît souffrant et la presse internationale spécule sur une éventuelle maladie de Parkinson. La secrétaire d'État se rend ensuite à Doha où la conférence économique vient de s'ouvrir en l'absence de personnalités marquantes et de pays aussi importants que l'Égypte, l'Arabie saoudite, le Maroc et l'autorité palestinienne. Elle évoque bien plus la question irakienne que le dossier palestinien. Puis, Albright se rend à Bahreïn, en Arabie saoudite et au Koweït pour tenter de reconstituer un front arabe contre l'Irak. Son affirmation qu'elle défend le droit international est reçue poliment par ses interlocuteurs. L'échec de la conférence de Doha marque la fin du volet économique du processus de paix. Aucun pays n'offre sa candidature pour la session de l'année suivante. Des actions diplomatiques de la dernière heure permettent de retarder le recours à la force contre l'Irak. Mais à Washington, on est parfaitement conscient que l'impasse palestinienne ne facilite pas le maintien d'une coalition contre l'Irak. Les cinq inspecteurs de l'UNSCOM peuvent reprendre leur travail sur le terrain, mais se posent immédiatement la question de l'accès au site présidentiel irakien. Le 20 novembre, un attentat à l'arme à feu fait un mort et un blessé grave, deux étudiants colons d'extrême droite non armés d'un institut talmudique dans la vieille ville de Jérusalem. Le 23 novembre, pour apaiser le mécontentement à l'intérieur de son propre parti, on l'accuse de gouverner autocratiquement, Netanyahou accepte la démission de son chef de cabinet, Avigdor Lieberman. Le même jour, la population de la zone de sécurité au Liban Sud est prise sous le feu croisé des Israéliens et de leurs alliés d'un côté, du Hezbollah de l'autre. 13 Libanais, dont 9 civils, sont tués par des tirs anti-israéliens. Du côté américain, la frustration est à son comble. En privé, Bill Clinton reconnaît que Netanyahou pratique systématiquement l'obstruction, filibuster, sur toutes les questions de l'application des accords d'Oslo, minant ainsi les fondements du processus de paix. Il ne permet pas de développement économique palestinien. La logique de fer de l'occupation requiert une psychologie d'esclave, mais conduit aussi à faire passer le soutien populaire d'Arafat au Hamas. Clinton comprend pourquoi Bush et Baker avaient eu recours à des réductions budgétaires envers Israël, mais cela ne servira à rien. Cela n'a de sens que dans le cadre d'une solution imposée, alors que sa politique à lui est une paix négociée entre les parties. L'ultime sanction pour lui serait de suspendre la participation américaine aux négociations tout en maintenant l'aide militaire à Israël. Ce n'est pas dans l'intérêt des États-Unis de donner de la dignité à des négociations bidons. Tout ça se trouve dans un document qu'on appelle le Clinton Tapes, les bandes de Clinton, puisque Bill Clinton a enregistré périodiquement des résumés de sa situation politique avec l'aide d'un historien professionnel. Ces bandes vont servir ensuite pour préparer la rédaction de ses mémoires. Donc il est beaucoup plus intéressant de lire le résumé des Clinton Tapes que les mémoires de Clinton qui sont très apologétiques, alors que les bandes sont beaucoup plus brutales dans les opinions exprimées sur les différents sujets évoqués. Alors, évidemment, on n'a pas publié l'intégralité des bandes, on n'a qu'une synthèse de ces Clinton Tapes, mais c'est un document extrêmement intéressant, qui est un peu de la même nature que pour la présidence de Reagan, était le journal de Ronald Reagan, qui a été publié ces dernières années et qui a renouvelé complètement la perspective que l'on pouvait avoir sur Ronald Reagan. Donc, ce type de documents sont tout à fait passionnants, évidemment, dans l'attente de l'ouverture des archives, mais ça, il faudra encore attendre quelques années. Donc, monté comme il est, Clinton refuse de recevoir Netanyahou lors d'une visite privée de ce dernier aux États-Unis. Visite privée signifiant le tour des organisations juives américaines. Officiellement, c'est un problème d'emploi du temps, mais le président des États-Unis en trouve pour rencontrer Shimon Peres, et la veuve de Rabin, ainsi que le roi Hussein, en traitement médical aux États-Unis. Netanyahou déclare que c'est tout l'État juif qui se trouve injuré, humilié, et non sa personne. Apparemment, il n'y a que l'inlassable Dennis Ross à croire que l'on peut obtenir des progrès. Il a fait passer le message à Netanyahou que les redéploiements prévus devraient au moins couvrir 20% de la Cisjordanie. On lui a répondu que l'on va étudier la question pour les prochaines réunions prévues pour le mois de décembre. Les responsables israéliens laissent entendre par des indiscrétions à la presse qu'ils seraient prêts à proposer 6 à 8%, ce qui suffit à susciter un double refus, celui des Palestiniens et celui d'une bonne part de la majorité parlementaire de Netanyahou. Déjà apparaissent des affiches représentant Netanyahou coiffées d'un keffieh avec la mention « menteur », ce qui, évidemment, rappelle les temps qui ont précédé l'assassinat de Rabin. Finalement, le gouvernement israélien approuve le principe d'un redéploiement unique sans en donner les spécifications. Il est conditionné à des conditions drastiques de sécurité et à l'élaboration d'un plan de règlement final spécifiant quel territoire Israël doit garder et autres intérêts vitaux. De l'avis général, la crédibilité des intentions de Netanyahou est faible. Cela apparaît comme un moyen de gagner du temps et de faire rejeter la faute sur l'autorité palestinienne quand elle rejettera inévitablement ses propositions. Cette dernière, évidemment, appelle au respect des accords, tandis que les Américains accueillent avec intérêt les vagues propositions israéliennes. Arafat habilement fait savoir qu'il ne se prononcerait pas lui-même tant qu'il n'aurait pas reçu officiellement une offre précise et cohérente avec les accords conclus en matière de retrait territorial. D'où le passage qui va suivre concernant ce que les diplomates américains vont appeler la solution à 13%, qui est l'allusion à un titre de film de l'époque, qui est enfin, la traduction de l'anglais littéral, c'est la solution à 7%, qui a été affreusement traduit en français par Sherlock Holmes contre l'Orient Express. La solution à 7% explique le terme que les diplomates américains vont utiliser de la solution à 13%. De façon générale, pour comprendre les textes de l'époque, il faut bien se remettre en tête l'histoire du cinéma parce que les acteurs ont toujours à l'esprit les derniers films sortis et font des allusions et des jeux de mots. Par exemple, dans ce qui précède Camp David 2, Ehud Barak sera obsédé par le film Titanic et fera référence systématiquement au Titanic. Donc on voit évidemment que c'est le film qui inspire cette comparaison. Donc les réunions prochaines avec Madeleine Albright ayant été fixées en Europe, Netanyahou a proposé Paris en ce qu'il concerne pour le 5 décembre 1987. Il cherche à obtenir un soutien diplomatique européen. L'entretien avec Jacques Chirac se passe particulièrement mal. Le président français l'accuse de raconter des balivernes et de provoquer constamment les Palestiniens. La réunion avec Madeleine Albright ne comprend que des Israéliens et des Juifs américains, si on prend en compte les origines de la secrétaire d'État. On aborde la question de fond. Se fondant sur les avis de ses experts militaires, le Premier ministre reconnaît que les impératifs de sécurité ne permettent qu'un redéploiement total de 13%. À la demande de Ross, il confirme qu'il s'agit là du règlement final, les zones A et B de la Cisjordanie couvrant 40% des territoires en question. Le diplomate lui marque qu'aucun Palestinien vivant n'accepterait une telle perspective. Le Premier ministre israélien laisse entendre qu'il s'agit là d'une position initiale de négociation. Il concède même que les 13% pourraient être le total des trois redéploiements prévus. La partie américaine y voit un grand succès. Netanyahou a enfin accepté de parler du contenu des redéploiements. Le lendemain 6 décembre, c'est au tour d'Arafat de rencontrer Madeleine Albright à Genève. La secrétaire d'État veut concentrer la discussion sur les questions de sécurité, mais le chef palestinien renvoie aux engagements pris. Au terme des trois redéploiements, il doit avoir le contrôle de 90% de la Cisjordanie. Lui aussi a des contraintes de son opinion publique exaspérées par les reniements israéliens. La partie américaine marque qu'il y a là un fossé considérable entre les positions des parties sans vouloir s'engager plus. Il devient clair qu'à cette date, Ross a défini comme objectif pour les deux premiers redéploiements la solution à 13% sans en donner la ventilation entre la zone A et la zone B. Son but est de prendre au mot le premier ministre israélien et de le forcer à bouger. Mais ce dernier demande maintenant un délai de 5 mois pour observer le comportement palestinien avant de faire quoi que ce soit. Dans la logique de Ross, pour forcer Netanyahou à bouger, les Palestiniens doivent céder sur toutes les demandes sécuritaires. À son retour en Israël, Netanyahou doit faire face à un nouveau scandale compromettant le Mossad. Durant des années, l'officier traitant des questions syriennes, un militant de l'extrême droite israélienne, a continué à fournir des rapports censés venir d'un militaire bien placé dans la hiérarchie syrienne. Or, s'il a existé, il a depuis longtemps pris sa retraite. Cela a permis à l'officier traitant de conserver pour lui les rétributions financières destinées à son pseudo-agent. Les informations fournies sans aucun fondement insistaient sur les intentions belliqueuses de la Syrie, ce qui a conduit à la crise de l'automne 1996, qui aurait pu déclencher une guerre préventive de la part de l'État hébreu. Il est vrai que les renseignements militaires avaient toujours contredit les informations du Mossad sur le sujet. L'officier fautif est arrêté et l'affaire est rendue publique, ce qui a pour conséquence, semble-t-il, l'arrestation de son ancien informateur en Syrie. Le sommet à Téhéran de l'Organisation de la Conférence islamique du 9 au 11 décembre est un grand succès pour l'Iran qui voit 55 pays représentés au plus haut niveau, grand contraste avec l'échec américain de Doha. La déclaration finale condamne le terrorisme d'État israélien et la colonisation juive des territoires. Il n'est pas fait mention du processus de paix ni de la libération de toute la Palestine. Le ressentiment arabe à l'égard d'Israël et des États-Unis est clairement exprimé. Seule la Turquie s'est désolidarisée de ces résolutions. Netanyahou joue sur le fait que sa majorité parlementaire est incapable de déterminer une position. Les positions des uns et des autres vont vers une annexion de 50 à 70% de la Cisjordanie. Face aux demandes répétées de la communauté internationale, il évoque l'intérêt supérieur d'Israël qui ne se suicidera pas pour faire plaisir aux autres. Ceux qui auront à vivre les résultats de la décision du gouvernement ne sont ni les Américains ni les Européens, mais le peuple d'Israël. Le cabinet appréciera ce que sont les besoins sécuritaires d'Israël pour lesquels le gouvernement seul est responsable. C'est sur cette base que Netanyahou rencontre de nouveau Madeleine Albright à Paris le 17 décembre. Il explique que sa priorité immédiate est de faire passer le budget avant la fin de l'année, sinon son gouvernement devra démissionner. Les débats étant suffisamment passionnés, il ne peut y ajouter la question encore plus controversée des redéploiements. En effet, chaque parti politique israélien exige des fonds en faveur de sa clientèle électorale, alors que le déficit est en train de se creuser. Le libéralisme économique affiché de Netanyahou, qui doit conduire à une réduction des dépenses publiques, se heurte à la réalité des subventions accordées à la colonisation et aux religieux qui n'exercent aucune activité productive. Les Juifs séfarades sont les premières victimes de la diminution annoncée des dépenses sociales. Le même jour, à Londres, les Palestiniens rédigent un mémorandum d'accord, Memorandum of Understanding, avec les Israéliens sous les auspices de la CIA. Il cède surtout en matière sécuritaire. Il s'engage à coopérer pleinement avec les Israéliens dans la prévention et la répression des actes de terrorisme, à confisquer les armes illégales et à en interdire l'entrée dans les territoires palestiniens, à poursuivre les milices armées illégales, à arrêter les gens impliqués dans les actes de terrorisme et à les transmettre à la justice, à en interdire le financement, à placer sur surveillance l'infrastructure civile de ceux qui exploitent la religion à des fins politiques, à prendre toutes les mesures nécessaires pour infiltrer les organisations terroristes et les mettre sous surveillance rapprochée dans le but de les affaiblir et de les détruire de l'intérieur. À plusieurs reprises, la réciprocité est indiquée, c'est-à-dire qu'Israël s'engage à mettre fin aux activités illégales et terroristes de ses propres citoyens. Dès lors, la rencontre à Arafat Albright du 18 décembre à Paris se passe dans une excellente atmosphère. Le Palestinien demande son redéploiement de 30%. La partie américaine tente de lui expliquer que ce sera bien un redéploiement à deux chiffres, mais bien plus proche de 10% que de 30%. À l'issue des deux rencontres, la secrétaire d'État annonce une pause due aux fêtes de Noël et demande à Netanyahou et à Arafat de se préparer avec des intentions sérieuses pour rencontrer séparément Clinton, puis ensemble. Albright dans la seconde quinzaine de janvier, puis ensemble Albright dans la seconde quinzaine de janvier 1998. Netanyahou a accepté parce que ça lui faisait encore gagner du temps et parce qu'il compte sur la mobilisation des amis d'Israël aux États-Unis pour faire pression sur la Maison-Blanche. Arafat lui voit la possibilité de porter la question palestinienne au niveau le plus élevé. Dès son retour, Netanyahou relance le débat en affirmant que toute la Cisjordanie fait partie de la terre d'Israël et est en droit de la revendiquer. Il joue sur le fait qu'une partie de sa majorité rejette le mémorandum d'accord qui, en raison des clauses de réciprocité, assimilerait les colons à des terroristes. Les militaires israéliens qui l'ont négocié s'indignent de l'utilisation cynique d'un accord qui satisfait toutes les demandes israéliennes. Le Premier ministre en demande la renégociation et formule de nouvelles exigences. Bien évidemment, c'est rejeté par les Palestiniens qui s'en tiennent au respect des accords conclus. Arafat, pour contrer la traduction territoriale des exigences de sécurité israélienne, propose le stationnement de troupes internationales dans les secteurs concernés. Quant au chef de l'opposition travailliste, Ehud Barak, il accuse Netanyahou d'avoir cédé devant les exigences américaines. Il est vrai que l'ancien général travaille à recentrer son parti vers la droite, laissant ouverte la possibilité d'un gouvernement d'union nationale avec le Likoud. Il critique ainsi l'incompétence et la légèreté de Netanyahou, mais non son programme. Il n'envisage pas de restituer plus de la moitié des territoires occupés aux Palestiniens. Au début de janvier 1998, David Levy démissionne de ses fonctions de ministre des Affaires étrangères. La raison officielle est son désaccord sur les propositions budgétaires, mais il ne cache pas non plus son opposition aux atermoiements de Netanyahou sur le redéploiement. S'y ajoute une rivalité ancienne entre les deux hommes et la place mineure accordée au ministre des Affaires étrangères, qui, lui et son administration, sont tenus à l'écart des négociations avec les Palestiniens. En dépit de l'opposition de 5 députés du parti de Lévy, le budget est néanmoins adopté par la Knesset par 58 voix contre 52 le 6 janvier 1998. Mais la coalition au pouvoir ne dispose plus que de 61 députés sur 120 et elle reste profondément divisée entre partisans et adversaires du processus de paix. C'est dans ce contexte que Denis Ross revient afin de préparer les entretiens de Washington, le 20 janvier pour Netanyahou, le 22 pour Arafat. Netanyahou tente de contourner la question du redéploiement en demandant une nouvelle réunion du Conseil national palestinien pour amender la charte palestinienne et refuse toute pression concernant le troisième redéploiement et demande des assurances sur la négociation sur le statut final. Ross rejette toute revendication en matière de sécurité et s'en tient au mémorandum d'accord. Arafat et Abou Mazen, ils tentent de faire comprendre que le redéploiement serait bien à deux chiffres, mais proche de 10%. Il obtient sans problème la promesse d'une lettre réaffirmant l'annulation des clauses litigieuses de la charte palestinienne. À moins d'une semaine des entretiens de Washington, le gouvernement israélien définit ses intérêts vitaux et nationaux en Judée-Samarie, destinés à servir de base aux accords intérimaires et définitifs. Sans définir une carte, il couvre entre la moitié et les deux tiers de la Cisjordanie. Une zone occidentale de sécurité le long de l'ancienne ligne d'armistice, une zone orientale couvrant la frontière avec la Jordanie, une zone entourant la région et non la ville de Jérusalem, les zones occupées par les colonies israéliennes, les intérêts liés aux infrastructures dont les sources d'eau, les installations électriques et les routes, les sites militaro-sécuritaires d'importance stratégique ou relevant de la capacité de dissuasion d'Israël, les zones autour des routes latérales et longitudinales vitales à la sécurité générale et à celle des communautés israéliennes, et enfin les sites historiques sacrés pour le peuple juif. Avec tout ça, il ne reste plus grand-chose pour les Palestiniens. Par ailleurs, il multiplie les exigences sécuritaires et demande de mettre fin à la propagande anti-israélienne, comme de dire que Jérusalem est une ville palestinienne. Comme le résume l'un des conseillers d'Arafat, si ce dernier entonnait l'hymne de Likoud, ce serait considéré comme insuffisant. Réagissant à cette attitude, le chef de l'autorité palestinienne fait savoir que tout est possible en cas d'échec du processus de paix, y compris une nouvelle intifada. Alors, le passage suivant s'appelle « Arafat, Netanyahou, Monica et Saddam ». Quand Netanyahou arrive à Washington le 20 janvier 1998, ses premiers contacts sont avec ses amis républicains, Newt Gingrich, le président de la Chambre des représentants, et Jeremy Falwell, le prêcheur fondamentaliste à la tête d'un véritable empire dans les médias. Le Likoud joue à fond la carte du fondamentalisme protestant, qui voit dans le soutien à l'État juif une obligation chrétienne dans une tonalité millénariste. Je rappelle que c'est ce qu'on appelle Christian Zionism, qui est une longue tradition à l'intérieur de l'histoire du protestantisme qu'on appelle l'accomplissement des prophéties, puisque cette tradition millénariste est apparue dans l'Angleterre de Cromwell au milieu du XVIIe siècle, et que le grand protestant français Jurieu a écrit à la fin du XVIIe siècle un livre qui porte justement sur l'accomplissement des prophéties. Et dans cet accomplissement des prophéties, les Juifs doivent aller en Terre Sainte comme étape vers l'avènement du millénium, ce qui est une chose souhaitable. Cette alliance politico-religieuse se cimente dans le refus de tout abandon de la terre d'Israël et fait de l'islam un ennemi commun des juifs et des chrétiens. Elle inquiète les milieux libéraux juifs qui, tout en étant des partisans affirmés de la cause de l'État hébreu, s'inquiètent des relents d'antisémitisme traditionnel du fondamentalisme protestant. La droite républicaine fait du soutien au gouvernement israélien une arme contre l'administration Clinton. Le premier ministre israélien est informé de la prochaine révélation d'un scandale d'adultère qui pourrait coûter sa présidence au président des États-Unis. Durant ses entretiens avec les responsables américains, Netanyahou refuse la solution à 13% pour les deux premiers redéploiements, évoquant la possibilité d'un retrait unique de moins de 10%, à condition d'annuler la troisième redéploiement, plus une réunion du CNP pour abolir la charte palestinienne et une période d'essai des engagements palestiniens avant toute mesure effective. Clinton lui propose le 13% contre l'abandon du troisième redéploiement. Netanyahou maintient son refus. Le président lui propose alors d'ajouter la conclusion formelle d'un traité d'alliance entre les États-Unis et l'État hébreu, ce qui avait jusque-là été envisagé que dans le cadre du règlement final. Netanyahou paraît hésiter, l'offre étant particulièrement importante du fait de l'insécurité psychologique des Israéliens. Le 21 janvier, l'affaire Lewinsky est rendue publique. Les confidences téléphoniques de la jeune stagiaire de la Maison-Blanche ont été enregistrées par son interlocutrice, militante républicaine et proche de l'Association américaine des Amis du Likoud. Le procureur indépendant Kenneth Starr a de quoi faire condamner le président pour parjure. Alors, je vous laisse dans cette angoisse pour faire une pause et nous reprenons dans 5 minutes.